Et ce soir, je voudrais partager avec vous quelques versets sur les tout premiers versets de l'épître de Jacques. Et je dois être franc avec vous, j'aime bien défendre Jacques, défendre son épître et presque défendre lui-même. Parce que parfois, suivant les contextes, il peut être presque, il a besoin de se justifier par rapport à Paul. Des fois, on aurait l'impression que Paul est un peu le premier de la classe, celui qui serait mis en avant, celui qui a les belles épîtres bien construites, avec la bonne densité théologique. Et puis, Jacques, c'est un peu différent. Si on pense à l'idée qu'on se fait des bonnes prédications, enfin, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, mais en tout cas, ce qu'on m'a appris à l'école, c'est que normalement, il y a une introduction qui attire l'attention, et puis un développement sur les réalités fondamentales du texte, sur ce qui est enseigné théologiquement, et puis ensuite, on passe aux applications. Et dans ce sens-là, Paul, lui, il est, non pas Paul Harrison, mais Paul de la Bible, c'est vraiment le premier de la classe. Si on prend certaines épîtres, tout est bien construit comme ça, il nous amène vers des vérités profondes qu'on apprend à découvrir dans le détail, et puis ensuite viennent les applications pour notre vie. Et quand on aborde l'épître de Jacques, je ne sais pas si ça vous est arrivé récemment de lire l'épître de Jacques, mais on commence presque directement par la fin. Il n'y a quasiment que des applications. On n'a pas d'explications fondamentales sur des vérités doctrinales, mais directement mais comment mettons en pratique ces vérités-là? Et je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement riche si on accepte de laisser Jacques parler pour lui-même à cette démarche, parce que je ne sais pas pour vous, mais je crois que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans la Bible, c'est que bien souvent le défi, c'est pas de comprendre la vérité fondamentale, c'est qu'elle produise du fruit dans nos vies. C'est au moment de passer à la pratique, on peut avoir des moments intenses pour comprendre le texte, comprendre telle ou telle vérité, et ça peut être un temps important de travail. Mais souvent, c'est au moment où on dit, mais allons-y, qu'est-ce que ça va donner dans ma vie? Là, ça peut être un peu plus complexe. Enfin, peut-être vous non, peut-être vous, ça va. Mais moi, c'est souvent le cas. Si on pense par exemple à la parabole de la maison, qu'elle soit sur le roc ou sur le sable, la distinction, ce n'est pas qu'elle ait entendu la parole de Dieu. Ce n'est pas une distinction entre une personne qui aurait entendu la parole de Dieu et une personne qui ne l'aurait pas entendue. Mais c'est la maison sur le roc, c'est celle qui met en pratique, et la maison sur le sable, c'est celle qui a entendu et ne met pas en pratique. Bien souvent, si on prend en particulier dans les évangiles, l'enjeu est au moment de la mise en pratique. Et je crois que si vous relisez Jacques à cette lumière-là, il y a vraiment un trésor. Je vois un peu Jacques comme un radar qui scrute notre vie, et qui regarde et dit, mais ok, l'objectif c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça c'est l'objectif. Maintenant, regardons comment ça se concrétise dans ta vie. C'est presque un radar à incohérence entre ce que nous disons croire et ce qui se passe réellement. Et je pense que c'est important d'être en contact avec ce radar pastoral, on pourrait dire, de Jacques, de dire, mais où est-ce que j'en suis dans ma vie, dans tel ou tel aspect? Alors, pour ce qui concerne ces premiers versets de l'Épître, les versets 1 à 12 que nous allons voir ensemble, je crois qu'on voit très profondément ça, que Jacques vient nous voir dans cette réalité de la difficulté. Dans ce cas-là, il nous parle de l'épreuve, de la difficulté, et il vient nous poser la question, mais est-ce que ton attitude par rapport à la difficulté, est-ce que ton regard par rapport à la difficulté dit quelque chose sur ton attachement à Dieu profondément? Alors, on va le voir ensemble. Je proposais peut-être de manière un peu différente de lire le texte au fur et à mesure, par trois sections séparées, pour bien voir comment le texte évolue, parce que des fois, en survolant le texte, on a presque l'impression que Jacques change de sujet sans avoir fini la discussion. Alors on va voir progressivement qu'est-ce qu'il en est. Jacques 1, versets 1 à 4. « De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Considéré comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Wow. Je ne sais pas si c'est un message très réjouissant pour ce dimanche soir pour vous. Je trouve que ça a un côté extrêmement peu naturel pour nous. On voit pas vraiment qu'est-ce qu'il y a de logique à dire ça, et on a presque l'impression que Jacques n'a jamais vécu la souffrance, mais au contraire, quand on voit un peu le contexte, lui-même sait très bien ce que c'est, et puis il s'adresse à des personnes vraisemblablement qui ont été littéralement dispersées, qui ont littéralement dû vivre tout ce que ça implique d'avoir été persécuté, toute la pauvreté que ça peut représenter, et les difficultés qu'il y a. Et il parle à des gens qui savent ce que c'est la difficulté. Et pourtant, il leur dit « considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves ». Et donc, je crois que dès ces premiers mots, il y a ce test. Est-ce qu'on peut accepter ces paroles? Est-ce que notre vision des choses peuvent accepter ces paroles? Si pour nous, l'important, c'est de profiter de la vie, de vivre dans le confort, de s'assurer un minimum de souffrance, alors clairement, il n'y a aucun sens à accepter ce que Jacques nous dit. Mais si au contraire, notre attachement à Dieu est premier, si premièrement on veut savoir ce que Dieu a pour nous, ce que Dieu a prévu pour notre vie, alors là, on peut commencer à écouter et se dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ok, ça reste quand même un petit peu difficile à entendre, mais qu'est-ce qu'il y a comme vérité à entendre dans ces paroles-là? Si vraiment je crois que mon attachement à Dieu est premier, et aussi ma croissance avec Dieu est première, alors il y a quelque chose qui peut être entendu. Notre attention est captée en disant, mais il y a peut-être un lien entre ma croissance et ces souffrances que je préférerais éviter. Et je crois que Jacques est en train de faire un parallèle, il y a un parallèle très net entre l'exercice physique et l'épreuve. Que si on veut grandir, si on veut développer nos muscles, c'est une chose de simplement les utiliser de temps en temps, mais ça ne produit pas grand-chose. Mais c'est vraiment face à quelque chose d'intense, un effort intense. Je vais mettre la photo, Mathieu, mais si on fait face à un effort intense, notre muscle peut se développer. C'est uniquement si on va au-delà de simplement marcher 5 minutes par jour qu'il peut y avoir un développement dans notre vie. Dans notre muscle déjà, et l'image est utilisée pour la foi, que si on veut voir notre foi grandir, ça passe par une contrainte forte, ça passe par une mise à l'épreuve de notre foi. De la même manière que le muscle ne grandit que s'il est amené à sa limite régulièrement pour qu'il reçoive le message « tu dois grandir, tu dois te développer », c'est la même chose pour notre foi. On peut dire « je crois en Dieu et je crois tout un tas de choses au sujet de Dieu », mais il y a une croissance qui n'a lieu que dans la difficulté, que face à l'épreuve. C'est une chose de dire qu'on fait confiance à Dieu, mais c'en est une autre, et je pense que sûrement tous parmi vous, vous avez vécu ça d'une manière ou d'une autre, que faire confiance à Dieu, ça prend une couleur particulière si on est dans la maladie, si notre compte en banque est à zéro ou dans le négatif, si on fait face à une situation où on ne voit aucune solution. Les choses se présentent à nous de manière différente. La mise en action de notre foi révèle certaines choses en nous. Je me souviens d'une période où j'étais malade pendant un an et demi, et ça a été un défi pour moi d'arriver à comprendre comment un Dieu qui m'aime vraiment puisse permettre ça. Et je me souviens très nettement de comme certaines séquences dans cette année, un peu plus d'un an de maladie, où je combattais pour ma foi, j'avançais, et puis à un moment, j'arrivais à comme ne plus avoir d'énergie, d'être prêt à abandonner. Je ne savais pas ce qui adviendrait, mais d'être arrivé au bout de l'effort que je pouvais faire. Et il y a cette image qui s'est imprimée en moi, comme si j'avais justement ce sac à dos sur le dos, comme si un entraîneur me mettait un poids sur le dos, comme un sac de sable, et me poussait à avancer. Et dès qu'il voyait le moment où j'allais abandonner, le moment où j'étais plus capable de porter ce poids, d'une manière ou d'une autre, le sac était enlevé, le poids était libéré, que ce soit par une parole qui m'encourageait, par les symptômes qui s'affaiblissaient pendant un temps, que un rayon d'espoir, d'une manière ou d'une autre, ça arrivait plusieurs fois. Mais il y a cette image vraiment qui s'est imprimée dans mon esprit, comme si Dieu était là comme un entraîneur qui permettait que j'ai ce poids pour pouvoir expérimenter cet effort de pouvoir avancer avec ce poids, et que dès que c'était trop, il l'enlevait. Mais dès que je reprenais des forces, il permettait que ça revienne. Et c'est vraiment dans cette logique-là que notre regard sur la situation a un impact énorme. Ce que nous voyons, quel est notre objectif, a un impact énorme. Si notre, encore une fois, si notre objectif dans la vie, c'est notre canapé, c'est de rester confortablement sur notre canapé, alors la souffrance n'est que souffrance, l'exercice physique n'est que souffrance. Mais si, dans notre vision des choses, dans notre vision de qui on est, de là où on veut aller, on a un objectif, si notre croissance avec Dieu est première, si par exemple on veut devenir marathonien, être capable de courir un marathon, alors chaque entraînement ne sera pas juste une source de souffrance. Peut-être vu de l'extérieur, ceux qui s'entraînent, quand on voit quelqu'un s'entraîner pour un marathon, on a l'impression que c'est que de la souffrance et de la torture infligée à soi-même sans aucune logique. Mais pour celui qui veut atteindre un marathon, pour lui, l'entraînement, c'est le moyen pour atteindre quelque chose. Et là, il y a un enjeu très fort pour nous de voir, mais quelle est notre lecture des choses? Qu'est-ce qu'on veut pour notre vie premièrement? Est-ce que c'est simplement de rester confortablement assis, ou est-ce qu'on veut atteindre quelque chose? Ça m'arrive de prendre ma pause déjeuner au jardin du Luxembourg, et je vois de temps en temps quelqu'un courir comme ça avec un sac sur le dos. Et moi qui prends tranquillement ma pause déjeuner, ça peut paraître un peu fou, et déjà courir, et en plus courir avec un sac sur le dos, mais assez clairement c'est un sac militaire. Je pense que cette personne a, quand on le voit courir avec un sac sur le dos, on sait qu'il a un objectif, on sait qu'il va atteindre quelque chose. Et justement, c'est notre regard sur cette souffrance qui nous permet de réaliser, est-ce que je suis un amoureux du canapé, ou est-ce que je suis quelqu'un qui me prépare pour un marathon? Quel est mon regard sur ma situation? Et dans la difficulté, en particulier quand la difficulté est aiguë et qu'on ne sait pas où, comment considérer les choses, comment aller de l'avant, il y a un vrai choix à faire. On ne peut pas rester neutre, on ne peut pas simplement rester sur une position par défaut à dire simplement je crois en Dieu. On a un vrai choix à se dire, mais est-ce que je vais vraiment faire confiance à Dieu, m'accrocher à Dieu, me dire que j'y comprends rien, je ne sais pas pourquoi je suis dans cette situation, mais je crois que Dieu est la solution d'une certaine manière, sans savoir comment. Ou alors je vais commencer à commencer avec des demi-solutions, à m'attacher de manière moins radicale à Dieu, à commencer à trouver d'autres manières de voir les choses. Peut-être que ça peut être un éloignement radical, et c'est tellement triste de le voir parfois, de dire, si Dieu permet ça, alors je ne veux pas suivre ce Dieu-là. Et parfois de manière un peu plus subtile, dire, ben, j'imaginais que prier, ça me permettait d'avoir des solutions à mes problèmes, donc peut-être que je vais moins prier. J'imaginais que de venir à l'église, ça pouvait m'apporter certaines choses, donc si Dieu permet ça, bah, peut-être que je viendrai moins souvent. Mais cette réaction, ce carrefour, c'est typique du fait de se retrouver face à la difficulté. C'est un choix que nous n'avons uniquement à faire uniquement quand nous sommes dans cette difficulté. Et je voudrais qu'on continue avec les versets suivants, des versets 5 à 8. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Alors comme je disais, d'une certaine manière, quand on lit l'enchaînement des passages, on peut se dire, mais voilà, Jacques est passé à un autre sujet, il passe au sujet de la sagesse, mais il nous donne des indices sur la continuité. Si on prend les derniers mots du passage d'avant, ça finit par pour qu'il ne vous manque rien. Et là, il démarre, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande. Ici, Jacques est en train de nous montrer le rôle de la sagesse, le rôle de la sagesse pour traverser cette épreuve. Parce que quand on lit ces premiers versets, on peut se dire, mais c'est bien gentil, je veux bien vivre cette épreuve selon la volonté de Dieu, mais ça me dépasse. Et il y a vraiment une place pour ça, dire à Dieu, là c'est trop, Là, je veux m'accrocher à toi, je veux te faire confiance, mais là, c'est trop. Et la réponse de Jacques est simple. S'il te manque de la sagesse, demande-la à Dieu, il t'en donnera. Quand on fait face à la difficulté, on peut avoir l'impression que c'est le moment où Dieu s'éloigne. Mais au contraire, il est en train de nous dire, mais non, le moment où on est dans la difficulté, c'est le moment où Dieu est le plus proche. Si on reprend l'analogie de l'effort physique, au moment de la difficulté, Dieu est comme l'entraîneur, celui qui est là proche pour ses athlètes, et il va voir l'exercice qu'il leur faut pour les aider, mais il va rester tout proche pour que ce ne soit pas une blessure. Il est le bon entraîneur pour ses sportifs qui l'amène à aller plus loin. Il n'est pas celui qui s'éloigne. Et cette sagesse, elle est présentée vraiment comme ça, comme la manière de voir les choses suivant Dieu, d'avoir le regard de Dieu, le regard de cet entraîneur qui voit toutes choses pour aborder ces difficultés de la bonne manière. Et ensuite, Jacques précise, dit, mais si vous demandez la sagesse de Dieu, si vous demandez l'aide de cet entraîneur-là, il ne vous faut pas douter. Vous ne devez pas douter. Et je pense que des fois, ça a pu être lu de manière différente, de dire, je ne dois pas douter, dans le sens, quand je demande, je dois être sûr que Dieu me réponde positivement. Et je pense que ça n'a pas vraiment de sens dans ce passage-là. Si c'était le cas, il suffirait de demander, mais Dieu, permets-moi de vivre une vie sans aucune épreuve, je n'en doute pas, c'est réglé. On n'a pas besoin de faire tout ce processus-là, on peut passer à autre chose. Mais Jacques précise bien, si on prend le verset 8, « Votre cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. » Littéralement, « Votre cœur est partagé », c'est il a une double âme, comme certains psaumes parlent d'avoir un cœur double. C'est-à-dire que l'enjeu n'est pas de savoir si Dieu va répondre à ma question, c'est plutôt, mais est-ce que je suis vraiment attaché à Dieu? Est-ce que mon cœur est vraiment vers Dieu quand je lui demande? Est-ce que je suis prêt à lui faire entièrement confiance? Ou est-ce que, quand je lui demande sa sagesse, je me dis, ben, peut-être que ça va aider, peut-être que ça ne va pas aider. Je vais quand même lui demander, et puis une fois que j'aurai sa sagesse, une fois que j'aurai son regard sur la situation, on verra si j'en tiens compte. Et là, Dieu nous rappelle quelque chose de fondamental. Soit il est celui qui nous accompagne dans la difficulté, soit on est pleinement confiant que c'est lui qui sera notre solution, soit ce n'est pas le cas. Mais si on lui demande son aide, c'est qu'on veut vraiment son aide et qu'on croit vraiment que c'est son aide qui sera la solution. Si on reprend cette image de l'entraîneur, normalement, si tout va bien, quand tout va bien dans notre... J'allais dire dans notre vie d'athlète, c'est pas mon cas, dans la vie d'un athlète ou même dans une équipe, si on peut penser à une équipe de foot, si tout va bien, on se pose pas trop de questions sur l'entraîneur, personne ne lui pose de questions, mais c'est quand la défaite arrive que là tous les regards se tournent vers l'entraîneur. Est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le vire? Et des fois c'est un peu plus subtil que ça, mais en gros tous les spots se tournent vers l'entraîneur quand ça va pas, et soit du coup il se fait virer. Soit l'athlète peut avoir le choix de l'écouter une fois sur deux, mais de perdre cette confiance et de se dire, bah, vu que pour l'instant ses conseils marchent une fois sur deux, de temps en temps je gagne, de temps en temps je perds, bah, peut-être je vais commencer à l'écouter une fois sur deux. Et il y a le même enjeu vraiment pour notre foi. C'est-à-dire, quand tout va bien, quand notre vie chrétienne est au beau fixe, et on ne se pose pas tant de questions que ça sur la confiance qu'on donne à Dieu. Mais quand les choses commencent à devenir un peu tendues, où on n'a pas trop prévu que ça se passe comme ça, on aurait bien aimé éviter ce problème-là. Là, on commence à avoir cet enjeu. Est-ce que on va faire confiance à cet entraîneur? Est-ce que cet entraîneur va continuer d'être notre entraîneur au travers de cette difficulté? Ou est-ce qu'on va commencer à le mettre de côté? Est-ce qu'on va commencer à mettre en doute ses solutions à lui? Et ça peut prendre des aspects très concrets. Dans notre travail, on peut lui demander de l'aide pour trouver un travail, pour une promotion, pour telle ou telle chose. Et on le prie, on lui demande sa sagesse, on lui demande d'intervenir, et puis on a la possibilité de faire avancer les choses, quoi. Il peut y avoir quelque chose qui est vaguement frauduleux ou pas forcément hyper réglo, mais voilà, on a demandé à Dieu peut-être qu'il aide, et puis en attendant on essaye nos méthodes à nous. Ça peut être le cas dans le célibat ou même dans la famille. On a nos sujets de prière et on s'attend à lui, et puis on lui demande de l'aide, et puis des fois, il nous donne son regard sur la situation, on dit « Ah, c'est une bonne idée ». Et puis, des fois, il nous donne son regard sur la situation, on dit non, finalement, je suis pas si sûr que ça, que son idée est la bonne idée, et je vais faire plutôt les choses à ma manière. Et ça peut prendre tellement de formes. Dans la maladie, ça dépend des cultures, ça dépend. Mais on peut prier à Dieu et lui demander son intervention, et puis à côté, ça peut être le marabout ou le rebouteux, suivant là d'où on vient, mais dire bah, ouais, y a peut-être d'autres solutions à côté, on teste. Et je crois que c'est vraiment de ça dont Jacques parle quand il dit, mais si vous demandez, c'est vraiment que vous croyez que c'est en lui qu'est la solution. Même si les choses se présentent mal, vous croyez vraiment que c'est en lui qu'est la solution. Et je voudrais terminer avec ces trois derniers versets, versets 9 à 11. Là aussi, ça peut sembler déconnecté, mais je crois que c'est au contraire très lié. Donc verset 9, que le frère de condition humble, ou le pauvre suivant les traductions, tire fierté de son élévation, que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève, avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, la fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Alors, comme je disais, à première vue, ça peut sembler complètement déconnecté. Jacques est en train de présenter ce qu'on retrouve régulièrement dans la Bible comme le grand renversement. Ceux qui sont en haut descendent et ceux qui sont en bas montent. Il y a ce grand renversement qui revient régulièrement. L'une des formulations les plus classiques, c'est dans le cantique de Marie en Luc 1. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Et c'est quelque chose qui revient régulièrement dans la Bible. Ce n'est pas forcément ce sur quoi nous, on aime bien revenir, souvent, surtout si on se sent plus proche du riche que du pauvre. Mais c'est une présentation qui est assez régulière, en particulier dans l'évangile de Luc, mais régulièrement dans l'Ancien Testament et de temps en temps dans le Nouveau Testament. Le pauvre est en général présenté comme celui qui fait confiance à Dieu, celui qui est conscient de sa faiblesse et qu'il sait qu'il a besoin d'aide. D'une certaine manière, quand Dieu demande tout, il est plus facile de n'avoir rien. C'est plus facile de dire à Dieu « prends tout » quand on n'a rien. C'est plus facile de faire de Dieu son plan A quand on n'a pas de plan B, quand on sait qu'on n'y arrivera pas et qu'on a besoin d'aide. Et à l'inverse, très régulièrement, le riche est présenté comme celui qui a les capacités, celui qui sait s'en sortir par lui-même. Il sait gérer son quotidien. De certaine manière, le riche est présenté comme celui qui ne prie pas pour son pain quotidien. Il peut s'attendre à Dieu pour son assurance vie, mais pas forcément pour son pain quotidien, parce que ça, il sait s'en occuper. Et encore et encore et encore, dans l'Évangile, il nous est présenté ce Dieu qui se présente non pas comme simplement notre assurance vie, pas simplement un ticket pour l'éternité, mais celui qui s'occupe de nous dès maintenant, pour notre quotidien. Et il vient nous remettre en question sur notre propre capacité à gérer notre quotidien, sur le fait qu'on peut s'imaginer ben, « Moi, Dieu, j'en ai pas trop besoin maintenant. On verra clairement après la mort, ça, je sais pas gérer, je peux pas acheter. » Mais ici, d'une certaine manière, nous était lu le texte d'Ésaïe tout à l'heure sur la proposition de manger et de boire gratuitement. C'est une proposition qui a beaucoup plus de valeur quand on n'a rien. Si on est étudiant un peu en galère et que tel ou tel événement, il y a repas gratuit, ça apparaît comme un peu plus gros quand on a le ventre vide que quand on a largement de quoi se payer un bon resto. Et c'est pas du tout déconnecté, à mon avis, de ce que Jacques dit sur l'attitude face à l'épreuve. Justement, quelle attitude nous pouvons avoir face à l'épreuve ? Le pauvre, d'une certaine manière, il sait qu'il a besoin d'aide dans la difficulté, parce qu'il a besoin d'aide tout le temps. Si on reprend l'image du sport, il a besoin d'aller à la salle de sport tous les jours pour mettre sa foi en œuvre, parce que c'est une question de survie pour le lendemain. Alors que le riche, à l'inverse, lui, il sait gérer. Donc, même dans l'épreuve, après avoir l'habitude de ne pas mettre sa foi en action pour telle ou telle situation, il peut voir l'épreuve comme une mise à l'épreuve de ses propres ressources et pas comme une mise à l'épreuve de sa foi. Et dans ce cas-là, il peut demander la sagesse, mais la sagesse comme un complément, comme une aide complémentaire. Au cas où je ne serais pas capable de faire face à cette épreuve, je viens peut-être de Dieu, mais ce n'est pas la ressource première. Et dans ce sens-là, la mise en garde est très forte, que nous devons être fiers de notre abaissement, c'est-à-dire fiers d'avoir reconnu que nous avons besoin d'aide, que nous n'avons pas les ressources pour gérer notre vie, et en particulier dans la difficulté. C'est peut-être là où on s'en rend plus le plus compte, c'est que dans la difficulté, il nous est rappelé qu'on n'est pas si riche que ça, qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin que Dieu intervienne, on a besoin de sa sagesse, on a besoin de ses ressources. Alors, vraiment pour conclure, je crois que ce texte nous encourage à avoir le regard de Dieu sur nos situations, avoir le regard de Dieu sur nos difficultés et de les aborder avec à la fois cette humilité de dire j'ai besoin que Dieu intervienne, j'ai besoin, Seigneur, de ta sagesse, j'ai besoin de ton regard, j'ai besoin de tes ressources, et de savoir que c'est pas pour rien, c'est qu'on veut atteindre quelque chose, qu'on a un objectif, qu'on veut aller de l'avant, qu'on veut continuer de grandir en Dieu, et que ces difficultés ne sont pas que de la souffrance, elles sont de la souffrance. Et en tant que tel, il n'y a pas de réjouissance dans la souffrance. Mais si on voit au-delà, si on voit là où Dieu peut nous amener, je crois qu'il y a une vraie joie de voir que même au cœur de la situation la plus difficile, on a l'occasion de voir Dieu agir et nous montrer combien il peut nous faire grandir et faire avancer. Alors juste pour terminer, je veux juste vous lire le dernier verset, le verset 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car... Et donc, l'épreuve, suivant les traductions. Après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que vraiment Dieu puisse nous permettre de grandir dans les difficultés. On ne prie pas Dieu pour les difficultés, mais que dans les difficultés, il puisse nous amener à y voir un sujet de croissance et non pas une tentation qui nous éloignerait de lui. Alors, je voudrais terminer par la prière. Seigneur, merci pour ta fidélité en toutes circonstances, Seigneur. Il est vrai que nous ne sommes pas aussi fidèles que toi tu l'es envers nous, mais Seigneur, que nous puissions vraiment en toutes circonstances nous accrocher à toi, savoir voir au-delà de nos circonstances et voir selon ta sagesse ce qu'il y a de bon à traverser victorieusement les difficultés avec ton aide, Seigneur. Que nous n'ayons pas l'orgueil de croire que nous pouvons combattre seuls, mais que nous ayons l'humilité de savoir que nous avons besoin de cet entraîneur auprès de nous pour nous amener à sortir victorieux de nos difficultés. Amen.